C'est donc dans Jérémie, au chapitre 4, les versets 19 à 31. Le prophète Jérémie a une vision et il en est malade, physiquement malade. « Je me tords de douleur, dit-il, car sa vision est une vision de mort. Guerre, destruction, anéantissement de toute vie. Les vergers sont transformés en désert, les villes sont en ruine, il n'y a plus d'hommes, même les oiseaux sont tous partis. » Et en effet, vont bientôt arriver des hordes barbares, les Scythes, qui vont ravager la Palestine. Jérémie est dans son rôle de prophète. Il insiste sur l'avant et l'après, la catastrophe. Jérusalem, tu te pars et c'est pour rien que tu te fais belle. Puis j'entends des pleurs, des supplications. Et à ce texte que nous venons d'entendre, suivront des paroles qui dénoncent le mal, les faux serments, le refus d'obéir aux commandements de Dieu, l'adoration de faux dieux. Rappelons que Jérémie a vécu en 650-600 avant Jésus-Christ, sous le règne de Manassé, qui se comporte en païen, puis de Josias, qui a beaucoup de mal à faire revenir le peuple à la loi de Moïse. Alors Jérémie, ancré dans l'histoire politique datée de son peuple, vit un parcours douloureux. Mais n'est-il pas étonnant qu'on nous donne à lire, à entendre aujourd'hui ce texte terrifiant? Dans ce temps de l'Avent, ce temps particulier pour les chrétiens, ceux qui ont la chance d'avoir rencontré le Christ et son histoire humaine, et qui savent que Noël est l'accomplissement d'une bonne nouvelle annoncée depuis longtemps, n'est-ce pas étonnant, inquiétant même, ce déferlement de violence dans le texte de Jérémie, alors que Noël est souvent un désir de lumière dans la nuit, de douceur, de tendresse, avec peut-être des souvenirs d'enfance. Ce texte nous rappelle à notre monde actuel un monde qui souffre. Que vivons-nous aujourd'hui? Des cataclysmes? Bien sûr, nous avons nos détresses intimes, un deuil, du chômage, une séparation, une violence familiale, et cela peut nous écraser. Mais si nous regardons au-delà de nos vies personnelles, sommes-nous anéantis par des inondations catastrophiques? Nos êtres chers et nos maisons ont-ils disparu sous des coulées de boue ou de lave? Notre vie est-elle faite de courses éperdues devant des miliciens armés qui pillent, violent et tuent tous ceux qui ne sont pas de leur bord? Avons-nous à peine la force d'imaginer demain, quand le bétail meurt, puis les gens, à cause d'une sécheresse qui n'en finit pas? Sans oublier, plus proche de nous, le désespoir d'une jeunesse sans but, sans travail, sans possibilité de faire un projet de vie. Et on pourrait continuer la liste de toutes ces violences faites aux hommes et que les médias nous rapportent jour après jour. Alors, que pouvons-nous faire? À main nue. Prier, certes, de tout son cœur, et ensemble chaque fois que c'est possible. Mais encore, dans l'évangile de Luc, Jean-Baptiste donne des pistes à ceux qui l'entourent et le questionnent. Que pouvons-nous faire? Il s'adresse à des catégories précises qui sont en position de force dans la population de l'époque. Les collecteurs d'impôts et les soldats. Ne rackettez pas votre prochain. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, quand par exemple des soldats affamés, mal payés, se servent sur des populations affolées. Mais Jean-Baptiste s'adresse à tous en parlant de partage. Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de la nourriture doit la partager. Le journal Réveil de ce mois de décembre parle beaucoup du partage et des cadeaux. Des cadeaux qui entrent dans un échange pour faire plaisir et se faire plaisir. Des cadeaux avec l'espoir plus ou moins inconscient d'un retour, parce que ce sont des cadeaux liens. Comme cette expression est forte, des cadeaux liens. Il y a aussi des cadeaux particuliers, comme l'or, l'encens et la myrrhe, apportés par les mages à un roi bien humble pourtant. Vous êtes-vous un jour demandé ce que Marie et Joseph avaient bien pu faire de ces trésors? Peut-être acheter l'âne qui leur a permis de fuir en Égypte quand Hérode a fait tuer tous les premiers-nés de 0 à 3 ans, ce massacre des innocents que nous occultons si souvent, car à Noël, certains pleurent quand d'autres se réjouissent. Alors, dans ce temps de l'Avent, où nous sommes facilement entraînés dans un tourbillon d'achats, de préparatifs, prenons le temps de nous poser, de nous arrêter. Prenons le temps, par exemple, de regarder de plus près les activités et les bilans de ces associations qui nous submergent de documents au point d'avoir envie de tout mettre à la poubelle sans discrimination. Pourtant, ce sont elles qui sont organisées pour apporter notre aide. Prenons le temps, comme le dit le cantique, de compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi avons-nous tant de chance, et en premier lieu, d'être nés après le Sauveur, qui est venu parler de pardon, de Dieu amour et de la résurrection? Alors, le partage devient évident. Dire et faire, participer, espérer encore et encore qu'il y a un sens qui nous dépasse, que des améliorations sont possibles, même à petite échelle. Refusons-les. À quoi bon? C'est à peine une goutte d'eau. Refusons la sinistrose. Voulez-vous quelques exemples? Regardez la dernière lettre d'Amnesty International, qui est d'ailleurs sur le présentoir. Je cite « Un tiers des actions urgentes pour des personnes en danger aboutissent. » Une signature, un timbre, un petit chèque quand on le peut, et un tiers des personnes sont sauvées. Quelle bonne nouvelle! Un autre exemple trouvé il y a quelque temps déjà. Un éducateur a été chargé d'un groupe de jeunes dont l'occupation principale était de voler des motos, les chevaucher à toute vitesse, puis sauter de l'engin, tandis que celui-ci allait s'écraser dans un ravin. Cet éducateur propose aux jeunes un challenge. On remonte les motos, on les répare. Et voilà ces jeunes investis sans compter dans le projet. Quelle bonne nouvelle! Et dans la presse actuelle, depuis 15 jours, avez-vous lu ces articles sur l'initiateur d'orchestres d'enfants dans des bidonvilles du Venezuela? Avez-vous entendu que des milliers de civils parqués au nord du Sri Lanka ont été enfin libérés? Avez-vous lu qu'un religieux iranien dénonce avec courage les tortures dans les prisons de son pays? Avez-vous lu encore que les prêtres du diocèse de Lyon ont décidé de verser un mois de leur salaire aux associations caritatives? Et ainsi de suite. Petite perle dans un monde immense. Pourtant, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, en ce troisième dimanche de l'Avent, voici une suggestion. Quand nous lisons, Entendons, voyons, une bonne nouvelle. Nous pourrions nous la communiquer. Et même la noter avec la date, son origine, et peut-être la glisser dans une boîte dans l'entrée du temple, et puis de temps en temps, en faire émerger pour une prière d'action de grâce. Partager les bonnes nouvelles et dire merci. Noël, c'est encore et encore une lumière sur notre chemin pour espérer, pour affirmer qu'un autre monde est possible, à condition que nous participions à son avancée avec confiance. Que le Seigneur nous y aide. Amen.